Voici les deux textes liturgiques pour ce quatrième dimanche après l'Épiphanie. L'Épître est tirée de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez en dette avec personne, si ce n'est de l'amour mutuel, car celui qui aime son prochain accomplit la loi. En effet, ses commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tous ceux qu'on pourrait citer encore, sont résumés dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain n'opère point le mal, l'amour est donc la plénitude de la loi. On se lève pour l'évangile. C'est suite de saint évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus entra dans une barque suivi de ses disciples, et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, de sorte que les flots couvraient la barque. Lui cependant dormait. Ses disciples venant à lui, l'éveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, commanda au vent et à la mer, et se fit un grand calme. Et saisi d'admiration, tous disaient, « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, toute cette semaine à l'oratoire de Padiès, messe à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, attention, samedi, messe à 10h, dimanche prochain, messe ici, à Tanus à 10h évidemment. N'oubliez pas le repas de paroisse, donc nous ferons ça maintenant si Dieu veut, le dernier dimanche de chaque mois. Le prochain repas sera, le premier repas de paroisse sera le 24 novembre. Donc, on s'organisera un petit peu comme nous le faisions les années précédentes. Tous ceux qui peuvent venir, veuillez avertir Laura Deschamps pour qu'elle puisse savoir s'organiser un petit peu. Puis après, chacun amène ce qu'il peut et qu'on s'organise pour que le repas puisse se dérouler dans bonnes conditions. Au niveau des retraites, donc j'ai encore reçu d'autres inscriptions. Donc je crois qu'on est à 33 ou 34 retraitants maintenant. Donc n'attendez pas encore. Tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui veulent venir aux retraites, n'oubliez pas que je ne peux pas prendre plus que 48 personnes pour les 8 retraites, puisqu'il n'y a que 6 places par retraite. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. J'ai mis au fond de la chapelle les papiers pour les inscriptions. Nous aurons le cours ce mercredi à 19h, à Padiès, cours sur les actes du magistère. Donc j'ai terminé mercredi dernier, la grande encyclique de Saint-Pilice, condamnation du modernisme. Là, je vais faire une conclusion avec deux petites encycliques peu connues de Saint-Pilice. Avant de commencer, je pense, l'étude des textes du magistère les plus importants sur la franc-maçonnerie. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui continuent de nous aider pour payer les factures, notamment les dernières factures ici concernant la chapelle. Il y a encore sans doute un drain creusé le long de la paroi ici pour éviter les infiltrations dans la cave, dans le sous-sol et puis finir le parking. Donc merci à tous ceux qui continuent de nous aider, parce qu'évidemment malheureusement l'argent reste le nerf de la guerre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien chers frères, eh bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui est très connu. La tempête apaisée. Et c'est certainement un des textes les plus faciles à expliquer. Ce texte nous explique beaucoup de choses. On est sur une barque. Il y a deux types de barques. Il y a la barque de l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Et il y a aussi notre petite barque personnelle, notre âme. Dans cette barque, qui affronte une tempête terrible, représente l'Église. Il représente aussi notre âme personnelle. Et qu'est-ce que nous dit ce texte ? Il y a un long voyage à faire, un voyage au long cours. Il faut partir d'ici-bas, cette terre, on monte au ciel. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça dimanche dernier. On monte au ciel, il faut passer par un long voyage, passer après au purgatoire, avant d'atteindre le ciel. Donc ce voyage va durer un certain temps, il faut faire attention, il faut se préparer. On ne part pas pour un voyage de plusieurs mois sans prendre des précautions alimentaires. Avoir la nourriture dans les caves du bateau pour pouvoir se sustenter pendant tout le temps du voyage. Et puisque c'est aussi, ce bateau est aussi le symbole de notre âme, eh bien, il faut aussi une nourriture spirituelle pour tenir le coup pendant le voyage. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle une autre chose très importante. C'est que si l'arrivée va se faire en douceur au paradis, si on y arrive, par contre, au cours du voyage, il va y avoir des problèmes. Il y a la tempête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de ce voyage qui nous mène vers le ciel, le démon va se déchaîner. Le monde va se déchaîner. Et nous allons avoir, nous aussi, toutes les concupiscences. La chair, concupiscence des yeux, l'orgueil, tout ça va se déchaîner pour empêcher le bateau de notre âme d'arriver au bon port. Et donc, les vagues vont se creuser. Les récifs sont là, les courants sont là, les pirates sont là. Tout se ligue, littéralement, contre ce bateau. Alors, qu'est-ce qui est important? L'important est de vérifier que le pilote soit là. Le pilote, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Il est dans la barque et il dirige la barque. C'est un pilote divin, donc il sait exactement où il faut passer. Mais il y a un problème. Un problème technique important. Le problème technique important, c'est qu'il y a aussi un copilote. Et le copilote, mes bien chers frères, c'est chacun d'entre nous. Et le copilote, par définition, il assiste le pilote. Il n'a pas l'expérience du pilote, il ne connaît pas tout. Donc il faut qu'il accepte de recevoir l'aide du pilote pour ne pas faire de bêtises. La difficulté réside ici. C'est que souvent, nous croyons tout connaître. Nous croyons tout savoir. En disant, pilote, allez vous reposer. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis grand, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai à faire. Ne vous inquiétez pas, je dirige la barque, allez vous reposer. Le pilote va dire, très bien, je m'en vais et je vais me reposer en bas. Alors quand le calme est là, pas de problème. C'est le grand bourg, c'est facile à diriger. Puis voilà la tempête qui arrive. Il n'y a pas de pilote automatique. Il faut que le copilote soit là-bas. Et tant que c'est calme, encore une fois, tout va bien. Et d'un seul coup, la tempête arrive. La tempête arrive et d'un seul coup, le copilote, c'est-à-dire chacun d'entre nous, nous allons nous rendre compte que finalement, ce n'est pas si facile que ça quand la tempête arrive. Et qu'il va falloir nous battre. Alors le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le copilote ait le courage de descendre, aller le réveiller. Parce qu'évidemment, le copilote a son orgueil personnel, ne veut pas chercher l'aide du pilote. Je suis un grand garçon, je vais faire le travail tout seul, je n'ai pas besoin de vous. Et puis la mer s'enfle, les vagues deviennent de plus en plus importantes, et les vagues passent par-dessus bord. Alors là, c'est la panique. Et du coup, on descend en bas, on descend dans la cave, dans la cale, pour réveiller le pilote. Seigneur, venez à notre aide, nous périssons. Et mon Dieu va nous dire, tiens, tu te rappelles de moi? Oui, Seigneur, là, ça devient sérieux, puis dépêchez-vous, parce que la mer rentre partout et on va vite couler. Alors, et alors seulement, après cet acte d'humilité, le bon Dieu se lève, le pilote se lève, va là en du navire, il donne des ordres. Il prend la barre en main, le vent se calme, la mer se calme, et notre Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, prouve qu'il est le grand patron. Eh bien, chers frères, cette histoire, c'est la nôtre. Et il faut méditer sur cette tempête terrible. Tout le problème vient de là, mes bien chers frères. La grande difficulté vient du fait que nous avons notre liberté personnelle, notre libre examen. Nous ne sommes pas des robots. Et le bon Dieu ne veut pas être servi par des robots. Il veut être servi par des hommes libres. Et nous pouvons utiliser cette liberté que le bon Dieu nous a donnée pour faire les bonnes choses, pour faire des grosses bêtises. Les deux. Dans le monde moderne, L'homme indépendant qui veut se rendre, s'affranchir de la loi divine, même de la loi naturelle, prétend être parfaitement libre. Je suis libre de faire ce que je veux de mon cœur, je suis libre de faire ce que je veux de ma volonté, je suis libre de faire ce que je veux de mon intelligence. Si je suis un petit garçon, je veux devenir une petite fille, je suis libre. Si je suis une petite fille, je veux devenir un petit garçon, je suis libre. Je suis libre de vivre avec qui je veux, de faire ce que je veux. Vive la liberté. Alors que fait notre Seigneur? Il se cache. Il se cache. Et nous avons l'impression, nous catholiques, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ se cache beaucoup en ce moment. N'oubliez pas que cette barque représente l'Église et représente notre âme. Les deux à la fois. On a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ se cache, qu'il est parti. Et les gens viennent nous voir, nous disent, Monsieur l'abbé, pourquoi le bon Dieu ne nous donne pas un autre Saint Pie X? Ce serait quand même plus facile d'aller au ciel avec un Saint Pie X comme pape, plutôt qu'avec M. Bergoglio à Rome. Et les gens nous demandent, Monsieur l'abbé, pourquoi cette tempête? Pourrait pas être le grand calme? Tempêtes sont utiles, mes bien chers frères. Parce que c'est dans les tempêtes qu'on voit où sont les bons marins. C'est dans les tempêtes qu'on voit où sont les bons capitaines. Pareil pour les soldats. Nous sommes des soldats, rappelez-vous. Nous faisons partie de l'Église militante. En temps de paix, tous les soldats sont bons. Facile d'être bon soldat en temps de paix. Mais les guerres sont parfois nécessaires pour permettre de vérifier où sont les bons soldats. La condition pour pouvoir aller au ciel, c'est quoi? C'est d'avoir le courage de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Il dit qu'avec moi, je peux tout faire. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Sans lui, rien n'est possible. Regardez ce qui se passe. Pourquoi le monde moderne est devenu une gigantesque poubelle? Parce que justement, les gens essaient de vivre sans le bon Dieu. Liberté, liberté, liberté chérie, c'est voilà ce qu'ils clament à longueur de journée. Liberté, égalité, fraternité. Regardez les conséquences. Quand j'étais en école, à un moment j'étais professeur en école, les premières années de sacerdoce, 79-80. On avait beaucoup de problèmes avec cette notion de liberté pour les enfants, surtout les grands adolescents. Nous sommes libres. Et j'avais l'habitude de raconter une petite histoire, qui est en principe une histoire pour les enfants. C'est aussi une histoire pour les adultes. Je ne crois pas vous l'avoir racontée ici. Si je l'ai fait il y a longtemps, je vais la recommencer. C'est l'histoire d'un perroquet. Quand j'étais en Australie, on avait des perroquets partout. Un perroquet apprivoisé, qui est dans une cage. Et ce perroquet, il a un nom, il s'appelle Fifi. C'est le nom du perroquet. Et ce perroquet est dans une cage et le maître de la maison, la maîtresse de maison, s'occupe bien de son perroquet. Tous les jours, elle vient lui donner des graines à manger, change son eau pour qu'il puisse boire une eau fraîche, une eau propre. Elle vient lui parler, lui dire compagnie dans la journée. Tout va bien. Malheureusement, le perroquet s'était un peu trop connecté à Internet et aux réseaux sociaux actuels. Et il commence à se dire, mais je suis dans une cage ici. Je ne peux pas voler où je veux. Bien sûr, j'ai à manger, j'ai un toit, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Alors il commence à réfléchir en disant, je veux ma liberté, je veux ma liberté, je veux aller partout où je veux. Alors, il dit à sa maîtresse, je veux ma liberté. Où est la porte de la cage que je puisse aller voler là où je veux? Parce que je serai libre. Je suis un esclave, un perroquet esclave, c'est épouvantable. La maîtresse de maison essaie d'expliquer au petit perroquet, attention, dans le monde, il y a beaucoup de dangers. Et puis c'est pas facile de trouver sa nourriture. Et puis il y a des rapaces partout qui vont essayer de vous croquer au petit déjeuner. Non, non, je veux ma liberté parce que je suis un grand perroquet capable de me mener moi-même. Je n'ai pas besoin d'une cage. Je veux ma liberté, je veux ma liberté, je veux ma liberté. Alors la maîtresse finit par dire, très bien, je vais te la donner ta liberté. Elle prend la cage, met la cage près de la fenêtre, de la maison, ou la fenêtre, ou la porte de la cage, et le petit perroquet s'envole. Tout content. Il a les grands espaces pour lui, il peut voler partout. Et tout content, il vole de tous les côtés, et puis il se nourrit des petites graines qu'il peut trouver à droite et à gauche, et puis il passe la nuit dans les sapins, et tout content, tout content. Et le lendemain matin, il fait un beau temps, le soleil brille, il dit c'est magnifique, je suis enfin libre. Je peux faire ce que je veux. Puis il n'y a pas que le perroquet qui s'est réveillé. Il y a un aigle qui s'est aussi réveillé. Et l'aigle, il se promène en haut du ciel pour chercher son petit déjeuner du matin. Et il voit un petit perroquet qui gazouille dans les arbres. Il dit, voilà mon petit déjeuner qui m'est apporté sur un plateau d'argent. Merveilleux. Le petit perroquet est en train de faire sa gymnastique matinale au sommet de son arbre. Qu'est-ce qu'il voit? Une grande ombre au-dessus de lui. Il voit cet aigle gigantesque qui se précipite avec son bec et ses crocs pour le dévorer tout vivant. Voilà, panique! C'est la tempête! Qu'est-ce qu'il fait le perroquet? Il se précipite dans la maison pour retrouver sa cage et la protection de la cage. Mais la fenêtre est fermée. Alors, avec son bec, il tape à la vitre pour attirer l'attention de sa maîtresse. Venez vite, venez vite, venez vite! La maîtresse lui dit, mais liberté, liberté, liberté chez... Ouvrez la cage! Alors maman, la maîtresse ouvre la fenêtre, ouvre la cage, le perroquet rentre dans sa cage, on ferme la fenêtre, on ferme la porte de la cage, et l'aigle est obligé de jeûner ce jour-là. C'est notre histoire, mon bien cher frère. C'est cet évangile. On veut la liberté. On ne se rend même pas compte que cette liberté est une liberté de perdition. La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est l'obligation que j'ai de choisir les moyens pour atteindre ma fin. La liberté, c'est le pouvoir que j'ai de me mouvoir dans le bien. J'ai malheureusement aussi le pouvoir de me mouvoir dans le mal. Si je me meus dans le mal, je vais finir dans le ventre de l'aigle. Si je me meus dans le bien, je peux terminer ma vie, cette fois-ci, au ciel. Voyez bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. La vie est un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Le bon Dieu nous attend au ciel, il a fait le ciel pour nous. Il veut qu'on y aille. Mais encore une fois, il ne veut pas être servi par des robots. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui va diriger le navire de mon âme. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui va diriger le navire de l'Église. Nous avons notre liberté, il faut accepter de soumettre notre liberté à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez où sont les gens parfaitement libres? Vous savez où on trouve les gens qui ont trouvé une véritable, totale liberté? On est libre le jour où vous et moi, nous sommes capables de dire non aux tentations. Si je suis capable de dire non aux tentations de la chair, par l'esprit de chasteté, si je suis capable de dire non aux tentations d'orgueil, par l'esprit d'obéissance, si je suis capable de dire non aux tentations de tout posséder, concupiscence des yeux, par l'esprit de pauvreté, là je suis libre. Là j'ai la liberté. Donc les gens libres, on les trouve où? On les trouve dans les couvents, mes chers frères. Dans les monastères, couvent catholique, monastère catholique, il y en a encore quelques-uns qui traînent. Parce que dans un monastère, on est protégé par pauvreté, chasteté, obéissance. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance. On les trouve dans les familles catholiques, les gens libres, qui sont protégés par un esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Et à ce moment-là, on ferme la porte aux démons et là, on trouve la liberté. Essayez d'expliquer ça à vos enfants. Bon courage. Parce que les enfants, ils méditent sur la première partie de l'histoire du perroquet, ils oublient la deuxième partie. Eh bien, chers frères, c'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Vérifier que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque. Mais il dort, est-ce qu'il est là? Mais il dort, est-ce qu'il est là? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque, qu'est-ce que ça veut dire? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque de mon âme, c'est l'état de grâce, c'est la charité. Notre Seigneur Jésus-Christ règne dans mon âme par l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est ça la charité. La charité, c'est pas quelque chose de compliqué. Charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Je suis la loi divine. Je suis la loi naturelle. Ce sont les commandements qui nous sont rappelés dans l'épître de ce jour. Et à ce moment-là, je trouve la véritable liberté parce que j'accepte de me soumettre à celui qui me donne la véritable liberté. La liberté du bon Dieu nous rend vraiment libres. Mais cette liberté, elle est fondée sur quelque chose qui s'appelle la croix, mes bien chers frères. La liberté que nous donne le démon, que nous offre le démon, c'est un esclavage. Parce que le démon est le prince des menteurs, le prince du mensonge. Bien chers frères, si nous avons compris ces choses-là, on comprend tout. Le Moyen-Âge était une époque de vraie liberté. Bien sûr, il y avait des bandits. Bien sûr, il y avait des gens qui vivaient dans le péché, mais ils savaient très bien qu'ils vivaient dans le péché. Et les bandits, qui finissaient parfois pendus au haricot, au gibet local, ils savaient très bien qu'il y avait un bon Dieu. Et avant d'être pendus au haricot, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les autorités se prenaient grand soin d'aller demander à un prêtre de venir lui rendre visite. Ils se confessaient avant de mourir, parce qu'ils savaient qu'il était un pécheur. Il y avait une loi naturelle. Et quand les gens désobéissaient à la loi naturelle, ils savaient très bien qu'ils désobéissaient à la loi naturelle. Aujourd'hui, il y a encore des bandits. Même nettement plus qu'avant d'ailleurs. Encore des gens qui veulent en faire qu'à leur tête. Mais ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là pour donner l'absolution. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là pour donner la Sainte Communion. Parce que les gens veulent devenir absolument indépendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut avoir le courage, si nous sommes dans ce cas-là, mes bien chers frères, de faire ce qu'ont fait les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui? Ils sont descendus à la cale, ils sont allés réveiller notre Seigneur. Seigneur, nous périssons. Seigneur, j'ai besoin de vous. Seigneur, j'ai besoin du confessionnal. Seigneur, j'ai besoin de la Sainte Communion. Seigneur, j'ai besoin de mon catéchisme. J'ai besoin de l'enseignement traditionnel de l'Église pour pouvoir survivre dans ce monde moderne. Alors le bon Dieu va se réveiller et va donner des ordres dans mon âme. Il va donner des ordres et il va calmer le vent, calmer la tempête, calmer les tentations, calmer les concupiscences, à nous demander d'utiliser toutes ces vertus extraordinaires dont j'ai parlé vendredi. La foi, l'espérance, la charité, les vertus cardinales de prudence, de justice, de force, de tempérance, les vertus morales de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé la paix. Ne vous faites pas, mes bien chers frères, détruire, tromper par les sirènes du monde moderne. Les sirènes du monde moderne qui essaient de nous faire croire que nous serons heureux avec la liberté, la fraternité et l'égalité. Aux libertés, de quoi faut-il parler à nos enfants? Aux libertés, parler d'obéissance. Parce que l'obéissance rend libre. La véritable obéissance nous oblige à marcher sur le chemin qui monte au ciel. C'est ça la liberté. S'il n'y a pas d'obéissance, on est libre de marcher sur le chemin qui descend en enfer. Ça, c'est la fausse liberté. Au lieu d'égalité, on va parler de justice. Pour rendre à chacun ce qui lui est dû, pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Parce que Dieu nous a donné une loi naturelle et tous les hommes, nous sommes tenus par cette loi naturelle, que nous soyons catholiques ou non d'ailleurs. Et puis la pauvreté, la chasteté, la liberté, donc il faut ces vertus fondamentales. Il faut la charité. La charité va remplacer la fraternité républicaine. La charité, c'est quoi? L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance à la loi divine. L'amour de Dieu, c'est pas accepter tous les migrants de la planète chez nous. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'aider le prochain à aller vers le Dieu, vers le bon Dieu. Si mon fils de 20 ans m'annonce qu'il veut vivre en concubinage, c'est pas de la charité que de dire au fils, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Non. De te rappeler au fils qui se révolte contre Dieu, qui a une loi divine. et que Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. C'est ça la liberté. Amen, bien chers frères. Essayons de comprendre ces choses-là. Voilà ce qu'il faut expliquer à vos enfants. Expliquez à vos enfants la grandeur de l'Église catholique. Ne tombez pas dans ce travers qui consiste à accepter les gémissements de nos enfants. « Oh, je suis catholique, c'est terrible, c'est épouvantable, et tas de choses à faire, je ne peux pas faire ce que je veux. » Expliquons à nos enfants que la liberté catholique, c'est la véritable liberté qui nous place sur le chemin qui monte au ciel. Voilà ce qu'il faut expliquer à nos enfants. Tu veux quoi? Monter en ciel ou tomber en enfer? Tu montes au ciel? Il faut rester dans la vertu. Faut utiliser la confession, faut utiliser la communion. Pourquoi croyez-vous que dans le monde moderne, ils ont complètement détruit la messe catholique? Pourquoi croyez-vous que les prêtres modernes nous disent, nous on ne confesse plus, plus besoin de confesser, l'homme est libre. Ah bon? L'homme est libre de se damner. Voilà la fausse liberté du monde moderne. Alors, mes bien chers frères, passons par celle qui est le modèle de vraie liberté, de vraie charité, de vraie égalité, de vraie fraternité, la très sainte Vierge Marie. Elle ne s'est pas révoltée, elle est restée à sa place. Un exemple qu'on donne toujours, le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, un soir, trois jours avant, la veille, pardon, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer la Sainte Eucharistie. Il va ordonner ses apôtres, prêtres, il va les consacrer évêques. Il y a quelqu'un qui n'est pas là ce jour-là, c'est Notre-Dame. Pourquoi elle n'est pas là? Pour bien expliquer justement que le rôle de la Très Sainte Vierge Marie n'est pas le rôle du prêtre. Donc elle n'est pas là. Mais le Vendredi Saint, au pied de la croix, elle est là. Les apôtres brillent par leur absence. Elle est là pour bien expliquer, je suis médiatrice de toute grâce. Je suis co-rédemptrice du genre humain. Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, d'accepter de rester à notre place. Chacun à sa place. Nous demandons au bon Dieu de faire disparaître de nos cœurs cet esprit de jalousie, cet esprit d'orgueil, cet esprit de fausse liberté, de fausse égalité, de fausse fraternité, et de mettre à la place l'esprit d'obéissance, l'esprit de justice, l'esprit de charité. En demandant évidemment la protection de notre Sainte Vierge Marie, priez votre chapelet tous les jours. Peut-être que nous avons du mal parfois à comprendre l'importance du chapelet, parce qu'il y a une partie répétitive dans le chapelet. Il y a quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'on peut faire du chapelet, c'est le démon, qui va tout faire pour vous empêcher de dire votre chapelet. Récitez votre chapelet tous les jours. Battez-vous pour la messe. C'est le jour où il n'y aura plus de messe qu'on comprendra ce que c'est que la messe. C'est le jour où il n'y aura plus de prêtres pour célébrer la Sainte Messe le dimanche qu'on comprendra ce que c'est que un prêtre. C'est le jour où le confessionnal sera vide parce qu'il n'y aura plus de prêtres pour écouter vos péchés que vous comprendrez ce que c'est qu'une confession. Alors prenons cette résolution, en passant par la Très Sainte Vierge Marie, d'avoir cet esprit de soumission, cet esprit de docilité, cet esprit d'humilité, pauvreté, chasteté, obéissance. Toutes ces grandes vertus qui nous permettront avec la grâce du bon Dieu un jour de tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.